Aldrich Ames.
A senior CIA official was arrested today for moonlighting as a spy.
Dans l'histoire de l'espionnage occidental, Aldrich Ames incarne la figure du traître. Cet Américain, officier du contre-espionnage à la CIA, a été démasqué et arrêté en 1994 et rapidement condamné pour espionnage au profit de l'URSS et de la Russie post-soviétique. Depuis plus de 30 ans, aujourd'hui encore donc, Aldrich Ames purge une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Les caméras étaient là quand les policiers du FBI l'ont arrêté en compagnie de sa femme. Après 31 ans au service de la CIA, il a été inculpé d'espionnage, puis incarcéré.
Le 21 février 1994, Aldrich Ames, 52 ans, grand et maigre, petite moustache noire et épaisse lunette de myope, était arrêté près de son domicile, une belle maison dans un quartier chic d'Arlington, en Virginie. Avec son épouse Rosario, soupçonnée elle aussi d'espionnage. Ces arrestations allaient immédiatement susciter stupeur, indignation et inquiétude chez les Occidentaux.
Pour un service secret, avoir un homme comme ça infiltré chez lui, c'est évidemment une catastrophe.
On apprenait qu'il travaillait à la CIA depuis 31 ans. Et on allait découvrir avec effroi l'étendue du désastre dont il était responsable.
En 9 ans, l'agent double aurait transmis à l'URSS puis à la Russie des rapports secrets et des listes d'agents travaillant en Union soviétique pour le compte des services américains. Il faudra sans doute plusieurs années pour évaluer les dommages qu'il a causés.
Suite à la trahison d'Aldrich Ames, ces hommes, au moins 25, avaient été arrêtés et pour une dizaine d'entre eux, exécutés.
Motivation d'Ames, l'argent. En échange des renseignements communiqués, l'espion aurait touché au total 1,5 million de dollars.
Le président Bill Clinton, visiblement sidéré par la nouvelle, allait improviser une conférence de presse devant la Maison-Blanche.
It is a very serious case.
Une affaire très grave en effet, qui posait aussi des questions diplomatiques. Les Américains découvraient qu'en 1994 encore, alors que l'URSS s'était effondrée 3 ans plus tôt, la Russie post-soviétique de Boris Eltsine, pourtant exsangue, continuait de les espionner et de dépenser des sommes folles pour financer une taupe.
Ce cas d'espionnage est le premier opposant officiellement la Russie aux États-Unis. Il survient aussi en plein débat américain sur l'attitude à adopter à l'égard de l'ex-ennemi.
Le gouvernement américain avait peut-être été naïf de croire que la guerre froide était terminée.
Visiblement à Moscou, les vieilles habitudes ne se perdent pas et l'ex-KGB est un des secteurs qui continue, lui, à fonctionner parfaitement.
Aux États-Unis, les regards se portèrent aussi sur la CIA, que le Congrès soupçonna de laxisme. Pourquoi avait-elle mis près de 9 ans à démasquer la taupe ?
This is an intelligence disaster.
Alors qu'il était visible aux yeux de tous ses collègues, qu'Aldrich Ames, grande maison, Jaguar, costumes italiens, s'était beaucoup enrichi. Peut-être était-il juste impensable que cet homme sans grande personnalité ait pu se lancer dans une aventure aussi risquée. On avait oublié qu'une taupe, couleur taupe, n'aime rien tant que passer inaperçue, loin du bruit et de la lumière. L'enfance d'Aldrich Ames est celle d'un petit Américain comme les autres de la middle class blanche des années 50. Né en 1941 à River Falls, dans le Wisconsin, un état du Midwest, Aldrich, surnommé Richie, est élevé avec ses deux sœurs par son père, professeur à l'université locale, et sa mère, enseignante de lycée. Mais en 1952, la famille déménage en Virginie, à Langley, lorsque le père commence à travailler au siège de la CIA, où il fera toute sa carrière. Avoir un père agent de la CIA a, semble-t-il, tourné la tête d'Aldrich, qui par la suite se plaira à dire qu'il avait l'espionnage dans le sang.
A martini, shaken, not stirred.
En réalité, son père n'a rien d'un James Bond. C'est un employé sans grande envergure, doté d'un grave problème d'alcoolisme, dont le fils héritera, mais pas tout de suite. Aldrich n'a que 16 ans quand, à côté du lycée, grâce à un piston de son père, il commence à travailler à la CIA. Ce n'est qu'un job d'été dans un bureau, mais l'adolescent se familiarise au monde du renseignement. Et lorsqu'il rate ses examens à l'université de Chicago, le jeune homme, intelligent mais paresseux, a d'abord des velléités de devenir comédien, avant finalement de renoncer et de suivre le conseil de son père, c'est-à-dire revenir à la case départ, à la CIA.
Why work for a company when you can serve your nation? The CIA, the work of a nation, the center of intelligence.
En 1962, Ames, qui a maintenant 21 ans et un penchant déjà pour l'alcool, réussit, on ne sait comment, à se faire embaucher à la CIA à plein temps, en tant qu'analyste civil, un emploi sans grand relief qu'il occupe pendant 6 ans. En 1969, devenu officier de la CIA, Ames, qui vient de se marier, part avec Nancy, son épouse, sur sa première mission à l'étranger, Ankara, en Turquie. Il est chargé par la CIA de recruter des agents soviétiques. La situation politique en Turquie est très tendue, entre les mouvements étudiants d'extrême gauche et l'extrême droite qui s'apprête à monter un coup d'État militaire. En 1971, l'Armée de libération du peuple de Turquie, un groupe armé marxiste-léniniste qui lutte contre le gouvernement et l'influence américaine, vient d'enlever 4 GI. Yves Mourouzi, le 5 mars 1971, sur France Inter.
La police est persuadée que les ravisseurs des 4 soldats américains ont entraîné leurs otages dans les locaux universitaires. On a d'ailleurs tiré ce matin sur le campus et il y aurait au moins 2 morts déjà.
Aldrich James va réussir à infiltrer l'organisation. Pourtant, la CIA juge son travail à Ankara peu satisfaisant et décrète qu'il n'est pas fait pour le travail de terrain. En 1972, l'agent est renvoyé aux États-Unis au QG de la CIA à Langley. Déçu, humilié même, Ames envisage de démissionner. L'humiliation, on le sait, est un sentiment qui laisse des traces profondes, capable de ressortir des années plus tard. Curieusement, au bout de 5 ans, sa situation s'améliore. Après avoir appris le russe, en 1978, Ames est envoyé à New York pour établir des contacts au siège de l'ONU, qui, de notoriété publique, est un nid d'espions. Il devient l'officier traitant de 2 importantes taupes soviétiques, Alexandre Ogorodnik et Sergueï Fedorenko. Ogorodnik, nom de code Trigon, livre aux Américains des centaines de documents classifiés, si importants qu'ils sont envoyés directement à la Maison-Blanche. Sergueï Fedorenko, lui, est un diplomate en poste aux Nations Unies, expert en armes nucléaires. Lors de rendez-vous secrets, il fournit à Ames des renseignements précieux sur les missiles soviétiques. Les 2 hommes deviennent amis.
Nous sommes devenus très proches. Nous avions une très grande confiance mutuelle.
Un grand ami que pourtant, un jour, Aldrich Ames n'hésitera pas à trahir. Durant ces années 70, Ames, très bien noté par ses supérieurs, reçoit plusieurs promotions. Pourtant, c'est aussi l'époque où il commet de graves erreurs de sécurité. En 1976, il oublie une mallette remplie de documents classifiés dans le métro de New York. La mallette sera finalement retrouvée par le FBI sans qu'on sache exactement si sa confidentialité a été compromise. L'espion reçoit une réprimande verbale, mais c'est tout. Un des mystères avec Aldrich Ames, c'est que même s'il commet des erreurs, la CIA continue de l'employer. Et même de le promouvoir, puisqu'en 1981, il est nommé chef des opérations anti-soviétiques à Mexico.
Mexico City, capitale fédérale, 14 millions d'habitants. La deuxième ville du monde par sa population.
La première en tout cas par son taux de circulation.
Dans la capitale tentaculaire, la mission de Ames, comme à Ankara, est de recruter des agents soviétiques. Mais comme à Ankara, pourquoi aurait-il changé ? Ames se révèle peu efficace. En revanche, cet homme marié dont le couple bat de l'aile se révèle excellent pour se trouver des maîtresses. Fin 1982, Ames, âgé maintenant de 41 ans, entame une liaison avec Rosario, 31 ans, une jolie brune cultivée et pétillante, qui est l'attachée culturelle de l'ambassade de Colombie à Mexico. Contrevenant aux règles de la CIA, Ames n'en informe pas ses supérieurs, ni de son souhait de divorcer de Nancy et d'épouser Rosario. Autre problème, son alcoolisme. Un soir, à une réception, l'espion en état d'ébriété se dispute bruyamment avec un officiel cubain. Un autre jour, après avoir provoqué un accident de la route, Ames est tellement saoul qu'il n'arrive pas à répondre aux questions de la police. Ses supérieurs envoient alors un rapport au siège de la CIA à Langley. Mais quand Ames retournera aux États-Unis, il affirmera n'avoir aucun problème d'alcool. Encore une fois, la CIA s'en tiendra là. Et en 1983, quand Aldrich Ames rentre aux États-Unis avec Rosario, curieusement, dangereusement même, c'est à cet homme peu fiable que la CIA confie la fonction la plus sensible, celle de chef du contre-espionnage pour l'Union soviétique. Imaginez, en pleine guerre froide, il connaît désormais les noms de tous les agents soviétiques qui travaillent secrètement pour l'Ouest. C'est dans cette fonction que deux ans plus tard, en 1985, Ames deviendra une taupe des soviétiques. Il faut le rappeler, c'est l'année où le nouveau locataire du Kremlin, Mikhail Gorbatchev, lance la perestroïka et la glasnost pour libéraliser l'Union soviétique et qu'à l'international, il amorce une politique visant au désarmement nucléaire. Le 19 novembre 1985, grande première, s'ouvre le sommet de Genève entre Gorbatchev et le président américain Ronald Reagan.
Il faisait froid ce matin à Genève, il y avait de la neige et un vent glacial qui soufflait de l'est. Mais n'en tirez aucune conclusion pour le sommet Reagan-Gorbatchev. La poignée de main a eu lieu à l'heure dite et les deux hommes ont eu plus d'une heure d'entretien en tête-à-tête au lieu des 15 minutes prévues. Un événement dans la diplomatie mondiale car il y a 6 ans, que les deux numéros 1, américains et soviétiques, ne s'étaient pas rencontrés.
Un rapprochement historique qui, on le voit, ne mettra pas fin à l'espionnage. Mais pourquoi en 1985, Aldrich Ames décide-t-il de trahir son pays et la CIA ? Après son arrestation, il tentera de s'en expliquer.
Je ressentais une grande pression financière. J'avais accumulé énormément de dettes pour payer mon divorce. Avec Rosario, nous voulions fonder une famille. Je n'avais pas de maison. J'étais effrayé en pensant à l'avenir.
Angoissé, Aldrich Ames échafaude toutes sortes de plans pour se tirer d'affaires.
Ma première pensée a été de voler une banque.
Mais Ames se souvient soudain que le KGB avait un jour offert 50 000 dollars à un agent de la CIA pour du renseignement.
50 000 dollars, c'est exactement ce qu'il me faut pour rembourser mes dettes.
Sa décision est prise. Et voilà comment il va passer à l'acte. Dans sa fonction de chef du contre-espionnage pour l'URSS, Aldrich Ames, qui parle russe, est amené à rencontrer des agents soviétiques dans le but de les « tamponner », comme on dit dans le jargon de l'espionnage, c'est-à-dire de leur soutirer des renseignements ou mieux, si possible, de les recruter. C'est dans cette tâche qu'en avril 1985, il prend contact avec un diplomate soviétique en poste à Washington. Un contact pris en accord avec la CIA. Mais cette fois-ci, Aldrich Ames ne cherche pas à recruter. La situation est inversée. Ce qu'il veut, c'est se faire recruter. Le 16 avril, Ames, avec une enveloppe dans son sac, se rend au bar de l'hôtel Mayflower, un palace des années 20, à deux pas de la Maison Blanche, où il a rendez-vous avec le diplomate pour déjeuner. Mais son convive n'arrive pas.
Would you like anything to drink, sir?
Martini, vodka, straight up.
A-t-il eu des soupçons? En attendant, Ames, de plus en plus nerveux, boit vodka martini sur vodka martini. Que faire? Abandonner? Au contraire, Aldrich Ames se lève, paie sa note, sort précipitamment du bar et d'un pas décidé, se rend à quelques blocs de là, à l'ambassade soviétique. À ce moment, l'agent de la CIA est sur le point d'accomplir ce que dans le jargon de l'espionnage, on appelle un walk-in, entrer dans une ambassade étrangère pour proposer ses services. Ames, qui ne peut ignorer la gravité de son acte, pénètre dans l'ambassade soviétique.
My name is Aldrich Ames. I work for the CIA.
À la réception, il tend son enveloppe à l'officier chargé de la sécurité, lui demandant qu'elle soit remise au représentant sur place du KGB, Viktor Cherkachin. L'enveloppe contient une lettre où Ames propose de vendre au KGB, pour 50 000 dollars, les noms de trois soviétiques qui, dans leur pays, travaillent secrètement pour la CIA. Cette proposition, totalement inattendue et inespérée, est du pain béni pour les soviétiques. Depuis le début des années 80, le KGB à Moscou se plaint, je cite, du niveau lamentable des opérations menées par ses agents contre l'ennemi principal, entendez les États-Unis, et de l'absence de recrutement d'agents américains de premier plan. En toute logique, la réponse du KGB est positive. Le 17 mai, Cherkachin déjeune avec Aldrich Ames et au moment de se séparer, lui tend un sac en papier. Avec, tout au fond, une liasse bien serrée de 500 billets de 100 dollars. 50 000 dollars. Une somme en réalité dérisoire comparée à la gravité de la trahison. Mais Ames a maintenant de quoi régler ses dettes.
J'étais dans un état de choc en réalisant ce que j'avais fait. Mais en pensant à l'argent que je pourrais encore gagner, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là.
Dans un engrenage et sollicité aussi par le KGB qui le flatte et promet de le payer encore, Aldrich Ames rencontre à nouveau Cherkachin un mois plus tard. Dans un endroit plus discret, le Chadwick's, un restaurant bon marché de la banlieue de Washington qui sent le hamburger et la cigarette. En échange d'un sac en plastique rempli de billets de banque, l'Américain tend aux Russes une serviette pleine de documents ultra secrets. En particulier, la liste de pas moins de 25 agents du KGB qui ont été retournés par la CIA. Ames n'a pas hésité à écrire tous les noms qu'il connaît. Un seul, pour l'instant, est épargné, Sergueï Fedorenko, son ami. La CIA l'affirmera plus tard, Aldrich Ames a fourni, en un seul rendez-vous, le plus grand nombre de documents et de renseignements sensibles qui aient jamais été donnés au KGB. Et les conséquences ne tardent pas. Durant l'automne 1985 et toute l'année 1986, la CIA s'inquiète. elle n'a plus de nouvelles d'une vingtaine de ses sources à l'est. Que leur est-il arrivé ? On l'ignore encore à Washington, tous les hommes dont Aldrich Ames a donné les noms ont été arrêtés par le KGB. Certains seront même exécutés d'une balle dans la nuque. Sergueï Motorine, qui travaillait à l'ambassade de Washington et avait pris goût à la vie américaine, est renvoyé en URSS, où il sera exécuté en 1988. Valérie Martinov, qui depuis 1982 renseigne la CIA, est soudain rappelée en URSS pour, prétendument, escorter un espion à Moscou. Une ruse, puisqu'à son arrivée, Martinov est arrêté, interrogé violemment et emprisonné. Il sera exécuté en 1987. Adolf Tolkachev, un ingénieur russe qui, depuis 1979, renseignait les Américains sur les radars et les missiles soviétiques. Arrêté en 1985, il est exécuté 2 ans plus tard.
There's been another. G.T. Tompkins. Dmitry Polyakov has been compromised.
Mais la plus grosse prise que le KGB doit à Aldrich Ames est Dmitri Polyakov, nom de code Top Hat, un général du renseignement militaire russe dégoûté par le système soviétique qui renseignait la CIA depuis plus de 20 ans. Surnommé le joyau de la couronne, on disait de Polyakov qu'il avait empêché la guerre froide de devenir chaude. Arrêté en 1986, il est jugé et exécuté 2 ans plus tard. Ames donne aussi au KGB le nom d'un agent soviétique qui, depuis plusieurs années, renseigne le MI6, le service secret britannique. Il en est une de ses meilleures sources, Oleg Gordievsky, qui alors est en poste à l'ambassade soviétique de Londres. Suite à la dénonciation de Ames, le KGB rappelle Gordievsky à Moscou en vue de l'arrêter et sans doute de l'exécuter. Par chance, Gordievsky, qui a flairé la menace, réussira à fuir l'URSS grâce à un stupéfiant plan d'exfiltration et à rejoindre la Grande-Bretagne, où il vivra jusqu'à son décès le 22 mars 2025. Je lui ai consacré un précédent podcast d'Espion, une histoire vraie. Quand on interrogeait Oleg Gordievsky sur Aldrich Ames, l'homme donc qu'il avait trahi, voilà ce qu'il répondait.
Aldrich Ames est bien sûr un traître. Il voulait de l'argent. De l'argent pour avoir une vie meilleure, un avenir. C'était juste un salopard en quête de fric.
Aldrich Ames finira par donner aussi aux Russes son grand ami, Sergueï Fedorenko, qui par miracle échappera à l'arrestation et fera défection aux États-Unis. En 1997, Ames, interviewé dans sa prison, tentera, assez maladroitement, d'expliquer sa trahison à un journaliste médusé par le cynisme de son interlocuteur.
Avec Sergueï, c'était une vraie amitié.
Vous étiez de vrais amis ?
Oui.
Vous dites oui, de nouveau.
Oui.
Mais ça ne vous a pas empêché de le trahir ?
C'est vrai.
Et quand un enquêteur demandera à Ames s'il avait conscience du danger qu'il faisait courir aux agents qu'il dénonçait, Ames répondra sans ciller.
Oui, j'en avais conscience. Mais je n'ai pas cherché à en savoir plus.
Mais revenons à l'automne 1985, quand la CIA cherche à comprendre d'où vient l'hémorragie de ses agents à Moscou. Pour l'instant, l'agence américaine se refuse à envisager qu'un des siens ait pu trahir. Elle pense avoir été victime d'un système d'espionnage électronique élaboré par le KGB et en conséquence, elle prend des mesures draconiennes pour sécuriser son système de communication. Une autre piste est envisagée.
Coup dur pour la CIA.
l'un de ses agents est passé à l'Est.
À la même époque, en effet, la CIA découvre qu'un de ses anciens agents, Edward Lee Howard, licencié en 1983 pour alcoolisme, s'est vengé en offrant ses services à Moscou.
La défection d'Edward Lee Howard avait représenté un vrai coup dur pour la CIA. Lorsque les soupçons se sont portés sur lui, il avait disparu de sa maison de Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique.
En septembre 85, la CIA tente d'arrêter Lee Howard, mais celui-ci échappe à ses poursuivants et réussit à fuir en URSS, où il va donner des noms d'agents travaillant pour l'Ouest. Mais la CIA se rend vite compte que la piste Howard ne peut expliquer toutes les pertes subies. Il faut donc chercher ailleurs. Mais où ? Pendant ce temps, Aldrich Ames est passé sous les radars. Il faudra attendre 7 ans pour que la vérité éclate. 7 années de traque, mais aussi d'erreurs, de piétinement, de négligence, pour ne pas dire d'insouciance criminelle. Ames, lui, a parfaitement conscience des failles de la CIA. Après son arrestation, il déclarera, non sans un certain cynisme,
« La CIA, vous avez 2000, 3000, 4000 personnes qui courent dans tous les sens et ça donne à l'espionnage. Vous ne pouvez ni les surveiller, ni les contrôler. Vous ne pouvez pas vérifier ce qu'elles font. C'est sans doute le plus gros problème pour un service d'espionnage de cette taille. »
Depuis 1985, Ames, qui a enfin pu divorcer, vit avec sa nouvelle épouse, Rosario. Et leur train de vie s'améliore nettement. Dans les mois, les années qui suivent, Aldrich Ames continue de renseigner le KGB et de s'enrichir. Régulièrement, il rencontre Sergueï Cherkachine, toujours en faisant croire à la CIA qu'il cherche à le tamponner. Les deux hommes ont établi un code. Quand Ames a besoin de le voir, il trace à la craie une simple marque sur une boîte aux lettres située à un croisement de rue dans le centre de la capitale. Une boîte aux lettres qui, aujourd'hui, est exposée au musée de l'espionnage à Washington. En 1986, gros changement, la CIA envoie Ames en poste en Italie. Mais avant de partir, comme c'est la règle tous les 5 ans, Ames est soumis à ce qu'il redoute le plus, le détecteur de mensonges. Ames fait part de son inquiétude au KGB, qui lui explique la marche à suivre.
Détendez-vous, faites une bonne nuit de sommeil et quand vous passez le test, soyez amical avec l'examinateur.
Le 2 mai 1986, Aldrich Ames passe le test. Et bien sûr, en répondant à certaines questions, il ment.
Avez-vous eu des contacts avec des services de renseignement étrangers aux États-Unis ?
Non.
Mais l'examinateur n'y voit que du feu et lui donne une bonne note.
Monsieur Ames.
You passed.
Vous avez réussi.
Soulagé, Ames peut donc partir en Italie en toute impunité.
Ciao.
À Rome, à côté de ses activités officielles, Ames continue secrètement de rencontrer son officier traitant russe et de lui fournir des documents confidentiels en échange de sacs de billets. Mais l'Italie, très loin du quartier général de la CIA, c'est aussi l'occasion pour le couple Ames d'oublier toute discrétion. Rosario renouvelle sa garde-robe. Ames aussi troque ses blazers et ses pantalons achetés en solde pour des costumes italiens sur mesure, des chemises avec ses initiales brodées et des chaussures en cuir cousu main. Il porte une Rolex et se fait blanchir ses dents jaunies de vieux fumeur. La Dolce Vita en somme. Tandis que pendant ce temps, à Moscou, les hommes que Ames a dénoncés au KGB sont interrogés, torturés, exécutés.
Où est notre officier traitant ?
Nous pensons qu'il est détenu à la Loubianka.
En 1989, Aldrich et Rosario, qui viennent d'avoir un enfant, rentrent aux États-Unis où ils s'achètent une belle maison avec jardin dans un quartier chic d'Arlington. Pour 540 000 dollars cash. Et Aldrich s'offre une Jaguar. À ceux qui s'étonnent de leur richesse, les Ames répondent que Rosario a touché un gros héritage de sa famille colombienne. Une fable qui semble fonctionner. Mais en 1991, des événements inattendus mettent en péril l'activité juteuse d'Aldrich Ames. Antenne 2, le 3 août 1991.
L'Union soviétique n'existe plus. C'est le constat dressé hier soir par les présidents de Russie, de Biélorussie, rebaptisée entre-temps Bélarus, et d'Ukraine. Les trois présidents slaves précipitent la désagrégation de l'URSS en annonçant la création d'une communauté d'États souverains.
Mais Ames peut se rassurer. Si l'URSS n'existe plus, le KGB, lui, se maintient en prenant le nom de SVR, Service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie. Aldrich Ames va donc continuer à renseigner les Russes et à se faire payer. Mais aux États-Unis, les services secrets se réveillent enfin. En 1991, une unité spéciale d'investigation est créée pour enquêter sur les pertes d'agents en Russie. Une équipe resserrée d'enquêteurs venant du FBI comme de la CIA. Avec à leur tête une femme étonnante, Jeanne Vertefeuille. Elle avait commencé à la CIA comme secrétaire, puis au fil des années, elle est devenue une des meilleures experts de l'espionnage soviétique. Intelligente et opiniâtre, cette analyste en fin de carrière se passionne pour cette tâche complexe.
Tenter d'identifier une taupe dans une affaire de contre-espionnage, c'est toujours un travail difficile et très long. Quand nous avons dressé la liste de tous les suspects possibles, on est arrivé à 198 personnes.
Il faut attendre 1993 pour que les enquêteurs réunissent un faisceau d'éléments concordants sur Aldrich Ames. Grâce à Diana, une amie depuis longtemps du couple et qui travaille aussi à la CIA. Elle se souvient que la famille colombienne de Rosario est pauvre. Pour elle, l'explication de l'héritage ne tient donc pas. Alertée par Diana, Sandra Grimes, qui appartient à l'équipe de Jeanne Vertefeuille, se met à creuser dans les comptes bancaires de Ames. Et ce qu'elle découvre est stupéfiant.
And my God, it was unbelievable.
Et mon Dieu, c'était incroyable. Le 17 mai, Aldrich Ames avait rapporté avoir déjeuné avec son contact soviétique, Chouvakine. Le 18 mai, il y a un dépôt sur son compte de 9 000 $.
L'étau se resserre, mais il faut des preuves d'espionnage. Des caméras, des micros sont installés devant la maison d'Ames et à son bureau. La première preuve est découverte le 6 octobre 1993. Devant la maison des Ames, en fouillant dans leur poubelle, un agent du FBI tombe au milieu des détritus sur un ruban d'imprimante. Un ruban qui révèle des messages échangés avec le KGB. Grâce à cet élément, le FBI reçoit l'autorisation de perquisitionner le domicile de Ames en son absence. Dans son ordinateur, on découvre des messages que l'espion avait fait l'énorme erreur de ne pas détruire. Les semaines suivantes, en écoutant les conversations du couple, le FBI constate que Rosario était au courant et même était complice des activités de son mari. En février 1994, le FBI apprend qu'Aldrich Ames doit bientôt se rendre à Moscou pour une conférence. Et s'il avait des soupçons et qu'il profitait de ce voyage pour faire défection? Il faut agir sans tarder. Le 21 février, la veille du jour prévu de son départ pour Moscou, Ames reçoit un coup de fil lui demandant de venir d'urgence à son travail. Il prend sa Jaguar, mais à peine a-t-il tourné le coin de la rue qu'une voiture s'immobilise devant lui et que deux autres font de même à l'arrière, lui interdisant toute manœuvre de fuite. Des agents du FBI le font sortir de sa Jaguar et lui passent les menottes. « Oh fuck !» s'exclame Ames. Le plan du FBI consistait à l'arrêter hors de chez lui pour l'empêcher de détruire des preuves. Rosario, elle aussi, est arrêtée. Olivier Vernet pour France 2.
Un sacré branle-bas de combat dans cette banlieue chic de Washington. Depuis 24 heures, cette ville-là est passée au peigne fin. Nul doute que derrière ces meurtrières, des têtes vont tomber dans la CIA.
À son procès, 2 mois plus tard, Aldrich Ames, qui plaide coupable, est condamné à la prison à vie. Depuis l'exécution des époux Rosenberg en 1953, la peine de mort pour espionnage n'est en effet plus appliquée aux États-Unis. Mais elle sera réinstituée par le Congrès après le traumatisme de l'affaire Ames. Ames, qui a trahi au moins 25 agents occidentaux, dont 10 ont été exécutés. Il est encore, à ce jour, l'espion le plus destructeur de l'histoire des États-Unis. Il est aussi celui qui a été le mieux payé. De 1985 à 1994, il aurait reçu 2,5 millions de dollars du KGB et du SVR, sans compter les 2 millions supplémentaires placés dans une banque à Moscou. Après son procès, ses biens sont confisqués par l'État. Rosario est condamné à 5 ans de prison. Une commission du Sénat est mise en place pour comprendre pourquoi il a fallu 9 ans pour démasquer Aldrich Ames. Elle pointera le dysfonctionnement de la CIA, dont le directeur James Woolsey sera limogé, mais aussi le manque de collaboration et même les rivalités entre CIA et FBI. Il faut aussi mettre en cause le climat de la fin des années 80, début des années 90, où avec Gorbatchev, Eltsine et la chute de l'URSS, la guerre froide semble appartenir au passé. De fait, pour les Américains, l'espionnage russe n'est alors plus une priorité. En 1994, le New York Times n'hésite pas à titrer « La CIA est-elle toujours nécessaire ?» On ose y croire aujourd'hui. Aldrich Ames est incarcéré à la prison fédérale de Terre Haute, en Indiana, sous le matricule 40087-083, sans possibilité de libération conditionnelle. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Avec le comédien Stéphane Valenzi, documentation Frédéric Martin, mixage Basile Bocquer, réalisation Marion Lelay.